Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Radio Grand Ciel, au micro Yves Bastide pour l'émission Rideau Rouge. Il vous est sans doute arrivé dans une salle de spectacle ou dans une salle de concert, de crier bravo à la fin, sans tout à fait réaliser qu'en disant bravo, en fait, vous parliez italien. Oui, bravo est un adjectif italien au masculin, qui signifie habile, adroit. Il existe un féminin, brava, et un pluriel, bravi. En français, on a décidé au pluriel de mettre bravo avec un S. Je voudrais aujourd'hui vous parler d'un auteur dramatique dont peu sans doute ont gardé le souvenir et qui pourtant a eu son heure de gloire à la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle. Il s'agit de François Copé. François Copé est né en 1842, il est mort en 1908. Il a été membre de l'Académie française à partir de 1884. Il a été administrateur de la Comédie française. Et il était très apprécié comme poète de l'école du Parnasse. Au passage, il a été fortement dénigré à un moment donné parce qu'il était férocement anti-Dreyfusard. Mais étant donné qu'il est mort en 1908, on peut se dire qu'il n'avait pas forcément tous les éléments. Alors je voudrais vous parler aujourd'hui d'une pièce qui tiendra peut-être particulièrement à cœur aux gens de la région. Cette pièce s'appelle Madame de Maintenon. C'est une pièce en 5 actes, avec un prologue, une pièce en vers, créée en 1881, mais dont la longueur même la condamne à ne pas être représentée très souvent. Alors, de quoi s'agit-il? Bien sûr, de mettre en lumière la personnalité de Madame de Maintenon, quoique nous verrons au fur et à mesure que Madame de Maintenon n'apparaît pas forcément tout au cours de la pièce. Rappelons que Madame de Maintenon est née d'Aubigné. Elle est née en 1635, à Niort, et elle est née en prison. Non pas pour des raisons religieuses, comme on l'a laissé entendre parfois, mais parce que son père avait fait des dettes et qu'à ce moment-là, il était en prison. Une chose importante, c'était la petite fille d'Agrippa d'Aubigné. Agrippa d'Aubigné, c'était un ami d'Henri IV, un protestant, qui a écrit un livre de vers qui compte parmi les plus beaux recueils de la langue française, Les Tragiques. Alors, la petite Françoise d'Aubigné, menée en prison, a été envoyée un temps à la Martinique. C'est la raison pour laquelle, par la suite, parfois, on l'appellera la belle indienne. Et elle s'est mariée, ou plutôt, on l'a mariée à 16 ans, avec un poète contrefait, tordu, spirituel, Scarron. Elle a été veuve et puis elle s'est remariée à l'âge de 48 ans, avec le roi Louis XIV. Mais revenons-en à la pièce de François Copé. Tout commence avec un prologue dont l'action se situe en 1660. C'est un prologue assez long, pas moins de 5 scènes. À l'époque, Françoise d'Aubigné est marié à Scarron, et on découvre que elle était follement amoureuse d'un jeune homme qui s'appelait Antoine de Méran. Antoine de Méran, découvrant qu'elle est mariée, décide de s'exiler et repart pour l'étranger. Au passage, on notera une allusion à la popularité de Scarron à l'époque. On ne voit pas sur scène, mais on raconte que Mazarin, en carrosse traversant la ville, s'attendait à ce que les gens l'applaudissent, et en fait, tous les gens ont applaudi Scarron. Fin du prologue, donc, 1660, et nous basculons en 1685, c'est-à-dire 25 ans plus tard. On découvre alors que Antoine de Méran était parti aux Amériques. Il avait emmené son frère Samuel, dont il avait la charge. Et Samuel revient en France et on le prend au départ pour son frère. C'est un protestant convaincu, avec des personnalités protestantes. Ils forment un complot pour essayer de faire abroger, ou plutôt de faire supprimer l'abrogation de l'édit de Nantes. Ils vont même jusqu'à faire le projet d'enlever le petit-fils du roi. Le petit-fils du roi, c'est-à-dire à l'époque, le dauphin, puisque le fils du roi était mort. On notera que pendant tout le deuxième acte, Madame de Maintenon n'apparaît pas du tout sur la scène. Et dans ce complot entre les protestants pour faire supprimer l'abrogation de l'édit de Nantes, on revit un peu, de façon assez intéressante, toute l'ambiance de cette époque, de ce XVIIe siècle, qui n'en avait pas encore fini avec les guerres de religion, avec les rancœurs, des rancœurs qui se transmettaient souvent de père en fils. Je vous propose un extrait de l'acte 3. Madame de Maintenon a découvert l'existence de Samuel, qu'elle ignorait, a découvert l'existence de Samuel, le frère de son amour de jeunesse. Et elle découvre également que Samuel est en train de comploter contre la vie du roi. Elle est avec Nanon. Madame de Maintenon, et selon toi, Nanon, c'est un complot encore. C'est un péril prochain. Je suis bien lasse. Comme ils savent haïr ces prétendus chrétiens. S'ils connaissaient le prix des faveurs que j'obtiens, comme ils m'épargneraient leur basse jalousie. Certes, je n'aurais pas pour toi l'hypocrisie de paraître accepter mon sort comme un devoir. C'est un enivrement bien fort que le pouvoir, et je ne ferai pas la désintéresser, Nanon, car tu connais ma secrète pensée. Et pour me consoler de mes longs jours d'ennui, quel rêve audacieux hante toutes mes nuits. Mais mon œuvre est si lente et si lourde, et ma tâche, et ce monde est court, si méchant et si lâche, que parfois le regret entre en ce cœur lassé et l'entraîne vers lui, vers le lointain passé, oui, près d'un roi qui m'aime. À l'ombre de ce trône, souvent, je me revois dans le vieux salon jaune, jeune femme, accoudé au fauteuil de Scarron, et j'écoute causer son gai des Camérons. Puis c'est notre mansarde et les longs mois d'épreuve, lorsque tu reprisais mes vieux habits de veuve, et lorsque je vivais attendant de Dieu seul mon pain quotidien, pauvre et libre jeunesse. Oui, c'est étrange, comme hier j'étais ému en voyant ce jeune homme. Je vous propose une première pause, écrite par un contemporain de Madame de maintenant, François Couperin. Pour une bonne compréhension de l'œuvre, notons que Antoine a donné à Madame Maintenon un psautier qui avait appartenu à son grand-père, Agrippa d'Aubigné. Et la possession seule de ce psautier la met dans une position fausse dans la mesure où on la soupçonne de toujours comploter du côté des protestants. Je noterai dans la pièce que, à plusieurs reprises, Louvois est présenté comme l'ennemi acharné et un peu stupide de Françoise d'Aubigné. Nous vous voici maintenant un peu plus loin dans la pièce. On a convaincu le roi que Samuel de Méran n'était pas exactement le frère de Antoine, mais le fils de Madame de Maintenon. Et nous arrivons à un moment clé de la pièce. L'entrevue avec le roi. Le roi debout devant la marquise. Eh bien, la marquise a appris que Samuel de Méran avait été condamné à mort pour avoir participé au complot protestant. Sire, êtes-vous un roi clément, un roi chrétien? Sire, avez-vous dit vrai? M'aimez-vous un peu, sire? Mon Dieu, je ne sais pas ce qu'ils ont pu vous dire, mais je le lis dans vos yeux, mon roi, mon bienfaiteur qui vous auront montrez ce livre accusateur qui vous auront fait voir comme une horrible offense ce triste souvenir de jeunesse et d'enfance. Je me justifierai sur le champ, mais d'abord grâce, ne laissez pas partir l'arrêt de mort. Si Samuel mourait, je vous le certifie, sire, Vous mettriez un crime dans ma vie que cet affreux moment abrège de moitié. Grâce pour Samuel, sire, grâce et pitié. Assez. Je vais d'un mot vous forcer à vous taire. Car c'est par trop d'audace à l'amant adultère d'Antoine de Méran qui m'implore aujourd'hui de prétendre sauver le fils qu'elle eut de lui. Qui ? Samuel ? Oser soutenir le contraire, mais ils en ont menti, Samuel, et le frère d'Antoine. Ils ont menti devant Dieu qui nous voit. Fable. Je ne suis plus la dupe qui vous croit. Sire, je prouverai. En entendant ce cri que vous avez jeté, je ne me trompe pas. C'est le cri d'une mère. Sire, il n'est pas mon fils. Bah, mensonge, chimère. Et cet arrêt de mort, sire, un sursis du moins, un sursis, car je puis produire des témoins, chacun sait bien là-bas. La ruse est peu vulgaire qu'on fasse appareiller un navire de guerre, n'est-ce pas, pour savoir quel est ce hobereau. Non, je ne dois pas faire attendre le bourreau. Eh bien, il est encore connu dans ma famille, le comte de Bussin, lui destiner sa fille, qu'il soit interrogé. Ils seront les garants que je ne vous mens point. Qui cela ? Vos parents ? Précieux témoignage. Avec ces créatures, vous êtes combiné ce tissu d'imposture. Puis, s'il n'est pas de vous, ce bâtard protestant, prenez garde. Pourquoi me suppliez-vous tant ? Oui, c'est vrai. Je le perds, mon Dieu, je deviens folle. Et là-bas, l'échafaud se dresse et le temps vole. Je fais un rêve affreux. Grâce, encore une fois. Ce sont vos courtisans, c'est l'infâme Louvois qui m'ont précipité en ce piège de boue, mon Dieu. Ce que je dois avouer, je l'avoue. Antoine de Méran m'aimait, et je l'aimais. Mais je n'ai jamais été sa maîtresse. Un roman de jeunesse, et je dis le contraire. Samuel et son frère, entendez-vous, son frère ? Mais qu'est-ce qu'ils se sont donc tous à fouiller mon passé ? Ne me regardez pas avec cet air glacé où je vais à vos pieds mourir de la torture, grâce. Je ne suis pas coupable, je le jure. Sur mon âme éternelle et sur le crucifix, grâce. Encore une fois, grâce, il n'est pas mon fils. Le roi, ô doute affreux. Mais si je vous croyais en somme, serait-ce une raison pour épargner cet homme ? Si vous trouviez le mot qui vous innocenta, ne serait-il pas moi un criminel d'État ? La justice a parlé, madame. Il faut qu'il meure. Ah, j'y renonce. Ils vont le tuer tout à l'heure. Mais je vous ai en vain l'arraché au trépas. C'est fini. Je me tais. Vous ne me croyez pas. Vous ne voyez donc pas que je voudrais vous croire et qu'il reste encore toujours gravé dans ma mémoire le serment qui devait cette nuit nous unir. Oui, ne voyez donc pas que c'est pour le tenir, que je fais de vos cris retentir ces murailles, et que je veux tirer du fond de vos entrailles la preuve qu'il n'est pas un coupable insensé, ce roi, qui jusqu'à vous enfin s'est abaissé. Oui, quand la jalousie atroce me dévore, vous ne voyez donc pas que je vous aime encore. Vous m'aimez. En effet, c'est bien le prouver, mais non, vous êtes bon, vous allez le sauver, il est déjà bien tard. Mais abri d'abattu, quelqu'un peut arriver avant qu'on ne le tue, mon Dieu. C'est sitôt fait un mot sur un papier. Ah, vous me faites bien durement expier l'orgueil que votre amour m'avait inspiré, sire. Vous m'aimez. Vous m'aimez ? Je ne sais plus que dire. Mais celle dont hier vous demandiez la main, voyez-vous, elle aura des cheveux blancs demain. Vous gardez le silence, encore, toujours. J'expire, eh bien. Soit donc je cède au démon qui m'inspire, vous ne direz plus que je suis si cruel. Voici la grâce. Allez, sauvez ce Samuel. Je pénètre ainsi le secret de madame. Si vous rendez la vie à cet homme, c'est qu'il est votre fils. Et sans mots superflus, jamais, devant mes yeux ne reparaissez plus. Moi, j'oublierai combien vous me parûtes belle. Grand Dieu. Mais si demain, dès l'aube à la chapelle où je vous attendrai, d'un cœur tranquille et fort, vous venez m'apporter la preuve de sa mort, c'est qu'il ne vous est rien, et vous serez ma femme. Non, j'ai mal entendu, non. Ce serait infâme. Moi, le sacrifier, je vous prie. À genoux, madame. Vous avez 6 heures devant vous, et je veux ignorer ce que vous allez faire. Plus un mot. Je pourrais devenir plus sévère. Épouser un grand prince ou sauver un bandit, choisissez. Sire, sire, un mot encore. J'ai dit. Et nous allons voir comment Madame de Maintenon va se précipiter pour sauver Samuel avant que le bourreau l'exécute. Mais entre-temps, je vous propose une deuxième pause musicale. Cinquième acte de cette Madame de Maintenon, pièce en 5 actes et un prologue de François Coppée, joué pour la première fois, je vous le rappelle, en 1881. Madame de Maintenon a obtenu du roi la grâce de Samuel. Mais le roi lui a dit, si Samuel est épargné, vous ne serez jamais mon épouse. Renonçant à tous ses rêves de puissance, Madame de Maintenon se précipite pour sauver Samuel de Méran. Et, coup de théâtre, Samuel refuse. Pourquoi refuse-t-il ? Parce qu'il est protestant convaincu, parce qu'il a juré à ses compagnons d'aller avec eux jusqu'au bout de leur démarche pour faire rétablir les protestants dans leur droit de professer leur religion. Madame de Maintenon a beau le supplier, Samuel, à un moment donné, hésite quelque peu. On l'a vu parler avec Madame de Maintenon, puisqu'il est le frère de l'ancien amour de Madame de Maintenon. Ses complices et ses amis sont plus ou moins tenté de croire qu'il est prêt à les trahir, alors, plutôt que d'être soupçonné d'une telle trahison, Samuel déchire le décret royal, la grâce royale, et s'achemine vers la mort. Voici la fin de la pièce. Le greffier à Samuel, êtes-vous prêt, monsieur ? Madame de Maintenon, il a sa grâce. Il faut un saint royal. Un des conjurés protestants voit en œuvre Judas, Samuel, horreur. Madame de Maintenon à Samuel, mais donne donc l'ordre de grâce, donne. Sais-tu que j'ai perdu l'espoir d'une couronne pour avoir ce papier, et qu'un trône là-bas est préparé pour moi si tu n'acceptes pas. Pourtant, vois, je t'en prie. À tes pieds, je me traîne, oui, ta vie avant tout. Samuel, déchirant brusquement le papier. Eh bien non. Soyez reine. Samuel, courant se ranger auprès des condamnés, je meurs avec vous. Suis-je un traître à présent? Son compagnon, donne-moi ton pardon, mon frère, en m'embrassant. Toi dont injustement j'ai nié le courage. Mon baiser sur ta joue effacera l'outrage, oui. Pardonne au vieillard, Dieu voit mon repentir. Et maintenant, reprends ton rang, soldat martyr parmi la légion des chrétiens décimés. Se tournant vers Madame de Maintenon, et vous, vous si fatale à la loi réformée, fille des dominiers marquises, écoutez-moi. Vous allez devenir la femme d'un grand roi. Au but longtemps rêvé, votre ambition touche. Mais c'est le soir du règne et son soleil se couche. Redoutez l'avenir prédit par un mourant. Malheur sur le grand roi. Malheur. Madame de Maintenon. Dieu seul est grand. Fin de la pièce. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous propose de nous séparer en écoutant un dernier enregistrement à l'orgue de François Couperin.